Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, il y a encore un an, il était premier secrétaire du Parti Socialiste, parti aujourd'hui sans projet, sans électeur et qui doit se choisir un nouveau chef dans les jours, les semaines qui viennent. Alors quelle histoire écrire après la débâcle dont il avait fait la chronique il y a quelques mois? Jean-Christophe Cambadélis viendra nous rejoindre dans un instant. Vos questions, vos commentaires sont les bienvenus pour intervenir le mot-clé Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe du dimanche, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali.
Virginie Malingre du journal Le Monde, bonjour. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour à tous.
Avant d'accueillir Jean-Christophe Cambadélis, on commence par le traditionnel tour de table. Et avec vous Nathalie, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine?
Alors ça va être un peu compliqué Ali. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on a arrêté le feuilleton de qui gruge qui dans l'affaire Hallyday et qu'on n'a pas été obligé de revenir sur ces merveilleuses images, ces obsèques quasi nationales où il y avait cette famille merveilleusement unie, alors qu'après on a eu un peu l'impression que c'était, comment le dire, pas vulgairement, un petit peu moins frais ce que l'on nous avait montré. Deuxièmement, je veux dire, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'effet div, c'est les infogénés, c'est l'affaire Malice. On est dévasté par la douleur de ses familles et on est aussi passionné. Et je voulais juste rendre un petit hommage, même si une femme ne doit pas rendre un hommage, à un livre de Daniel Zaguri, qui est psychiatre expert près des tribunaux, qui a écrit un livre qui s'appelle « La barbarie des hommes ordinaires ». Et qui montre un peu comment finalement ce sont des gens normaux. Vous savez, nous, ces gens qu'on interviewe à la télé, les voisins qui disent « Oh bah il était sympa, il allait m'aider me chercher mon pain. Oh bah oui, il était gentil avec sa femme. »
Il était tout à fait normal.
Voilà, pour montrer qu'il peut y avoir une bascule et que c'est pas forcément, il y a une sorte de banalité du mal aussi dans les faits divers. Et j'atterris sur la politique en disant, on était désespérés en disant ce débat des socialistes, c'est navrant, ils sont morts. Et ben moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors je suis peut-être un peu bizarre.
Oui, bah non, le débat de mercredi dernier.
Peut-être bizarre ou paradoxal volontairement. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine une volonté d'essayer de faire le bilan de Hollande sans être ignoble, sans être trop méchant, sans le charger, notamment chez Stéphane Le Foll, qui a une forme de dignité. Et puis Emmanuel Morel, pour moi, c'est une découverte. D'abord, pas seulement parce qu'il a la tête de François Hollande, et ça, les réseaux sociaux ont fait ça toute la soirée en disant qu'on croyait que c'était lui, mais parce qu'il a défendu une espèce de gauche très à gauche. Seul bémol, si vous voulez, à ce débat, c'est qu'on avait vraiment l'impression que seule la culture d'opposition intéresse les socialistes et que l'idée de gouverner éventuellement, ça n'était pas le sujet. Mais on avait dit qu'il s'était mort, il y a une petite preuve de vie l'autre soir.
On en parlera évidemment avec Jean-Christophe Cambadélis, pour qui ses quatre compétiteurs ont rallumé la lumière, je le cite, vraiment. Virginie ?
Bon, moi je voulais revenir sur cette semaine où notre Emmanuel Macron n'a vraiment pas ménagé les parlementaires. Au Sénat, le gouvernement a utilisé le vote bloqué pour empêcher l'adoption d'une proposition de loi sur la revalorisation des retraites agricoles. Quelques jours plus tôt, Édouard Philippe avait fait part de sa volonté de réformer la SNCF par voie d'ordonnance et de restreindre le droit d'amendement. Alors, autant vous dire que ça a beaucoup râlé. Même François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui jusqu'ici ne s'est pas fait remarquer pour avoir pris ses distances avec l'exécutif, a appelé le président, je cite, à respecter le Parlement. Alors à l'Élysée, on assume, on rappelle que le président a été élu pour réformer rapidement la France. Il faut donc exclure toutes les procédures, toutes les obstructions parlementaires dont l'opposition use et abuse. Emmanuel Macron n'a pas oublié que quand il était à Bercy en 2015, sa loi pour la croissance et l'activité a été votée après 412 heures de débat et l'adoption de 2329 amendements. Il sait aussi que les parlementaires sont peu populaires auprès des Français, qui voient souvent le pouvoir législatif comme un pouvoir fantoche et godillot. Alors, pour mener à bien sa réforme des institutions, Emmanuel Macron, il a quand même besoin du soutien des parlementaires. Et au nom de cette efficacité qu'il revendique tant, il devrait peut-être reconsidérer son goût de la provocation.
Merci Virginie. Karine.
Alors moi, j'aimerais revenir sur le 8 mars et donc sur la journée de la femme. C'est une journée politiquement qui est toujours assez hypocrite. Et cette année, sous l'ère macroniste, on aurait pu espérer que ça ait un petit peu changé. Et en fait, pas vraiment. Alors officiellement, on a le gouvernement qui nous a présenté sa grande loi sur l'égalité, notamment salariale, entre les femmes et les hommes. Ça, c'est ce qui était bien affiché. Et puis officieusement, en coulisses, cette fois, comment les choses se passent? Eh ben, vous allez voir qu'elle change pas. Je prends juste un exemple. Les réunions de la majorité qui ont lieu à Matignon. C'est important, évidemment, que la majorité se réunisse régulièrement et qu'elle se fixe un certain nombre de caps politiques. Sauf que dans ce genre de réunion, en général, vous cherchez les femmes. Parce que le Premier ministre, c'est un homme. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Les présidents de partis qui sont présents, qui sont membres de la majorité, sont des hommes. Les présidents des groupes parlementaires aussi sont des messieurs. Les conseillers politiques, c'est toujours des messieurs également. Et puis les ministres qui sont invités, alors il y a quelques femmes, enfin c'est très très majoritairement, très très essentiellement des hommes aussi. Bref, dans cette assemblée, hautement stratégique, vous avez 2 femmes et 17 hommes. Donc, juste pour vous dire que le fossé est encore très très loin d'être comblé.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et qui sait que c'est le contraire, oui.
C'est vrai.
Merci Nathalie, oui.
Vive question politique, il est 12h10, c'est pour lui. Quel est le fait marquant de la semaine? On va le demander à notre invité, alors que les socialistes s'apprêtent à voter pour élire celui qui lui succédera à la tête du parti. L'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, fait son entrée. Il va s'installer au micro 200 du studio 221 de la Maison de la Radio. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Même vos adversaires vous reconnaissent d'être l'un des meilleurs analystes de la vie politique française.
Pareil, oui.
On espère que vous abandonnerez la langue de bois pour nous parler de l'avenir du PS, si
ça
vous pensez qu'il en a un. S'il vous plaît, que soit au moins le contrat jusqu'à 13h sur l'avenir de la social-démocratie, de la gauche également. Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans la semaine, Jean-Christophe Cambadélis?
Alors j'aurais voulu dire le match d'hier entre la France et l'Angleterre qui démontre que même quand on est une équipe en difficulté, on peut gagner.
Oui, hein, bon. Vous y voyez un signe.
Bah voilà, c'est une question d'équipe, c'est une question d'abnégation.
C'est aussi une question de chef, hein. Il y a un nouveau chef dans l'équipe de France.
Il y en aura un nouveau au Parti
Socialiste. Qui est le Bernard Laporte
Bernard Laporte, c'est pas tout à fait lui qui a coaché le match. Non, mais je crois que l'événement de cette semaine, c'est les décisions de Trump dans le commerce international et ses prises de position visant à remettre en cause la liberté des marchandises, des échanges des marchandises. Il le fait pour des raisons américaines, parce qu'il va y avoir les élections en Pennsylvanie. Et on voit bien là, quand il signe ce fameux décret du président derrière lui, vous avez vu, c'est pour l'élection, bon voilà pour lequel il est fait. Puis par ailleurs, ça fait partie de la politique actuelle de Donald Trump pour défendre l'industrie américaine face dans un monde. Mondialisé.
On peut dire que cette bonne guerre, c'est quand même surprenant d'entendre un socialiste faire l'apologie du libre-échange, non ?
Non, moi je suis pour le juste échange, qui n'est pas tout à fait le libre-échange, c'est-à-dire que je suis pour introduire dans les échanges des normes qui sont environnementales ou la manière dont on traite les salariés, etc. Donc je ne suis pas un tenant du libre-échange, libre et non faussé, théorie bien en vogue dans les milieux libéraux.
Nous voilà rassurés. Tout de suite, le zapping politique, il est signé Laurence Perron.
Pour commencer, ce n'est pas si simple de trouver son vagin. Certaines femmes restent des semaines, des mois, parfois même des années sans le regarder.
8 mars 2018, journée internationale des droits des femmes, Édouard Philippe annonce une cinquantaine de mesures.
C'était le jour ou jamais, dans un œcuménisme politique parfait. Roselyne Bachelot, Myriam El Khomri et l'actuelle secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ensemble sur la scène de Bobino pour jouer les monologues du vagin.
Vagin. Au mieux, on dirait le nom d'une infection. Ou à la limite, d'un instrument chirurgical. Infirmière, vite! Passez-moi le vagin!
Je vois pas pourquoi les femmes devraient avoir honte de leur sexualité, honte de leur vagin. Il y a énormément d'hommes qui passent leur journée quand même à vanter leurs propres exploits sexuels, à se mesurer qui a la plus grosse, etc.
Des hommes et une femme pour cible, ça c'est le congrès du FN. Et c'est à la grosseur du calibre que ça va se mesurer, Marine Le Pen prévient.
J'en ai pris, reçu, subi. J'ai une forme de carapace extrêmement solide. Mais je note que je suis quand même un peu la femme à abattre.
Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve.
Elle aussi se décline au féminin, la constitution, mais ce sont toujours des hommes qui entendent la modeler, et souvent à leur image. C'est en tout cas l'accusation de la droite face aux velléités de réforme d'Emmanuel Macron. Un homme encore pour porter le fer, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau.
On a une hyper présidentialisation avec un Parlement qui est quand même très très affaibli, une Assemblée nationale qui est souvent à la botte de l'exécutif, si j'ose dire.
Un autre gros mot féminin encore, qui aura marqué cette semaine, privatisation. Enfin, en langue de ministre de l'économie, Bruno Le Maire le dit comme ça.
Ce n'est pas le rôle de l'État que de recueillir régulièrement des dividendes au lieu d'investir dans l'avenir des Français. Je veux dire très clairement, nous demanderons prochainement les autorisations législatives nécessaires pour faire un certain nombre de cessions d'actifs de l'État.
Et en langue d'insoumis, Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis, s'indigne comme ça.
Ce n'est pas le rôle de l'État de vendre nos fleurons pour que d'autres engrangent les dividendes. Socialiser les pertes et privatiser les profits, c'est une politique qui ne sert que les plus riches. C'est ce qu'a fait Margaret Thatcher, c'est ce qu'a fait Ronald Reagan, c'est ce que fait Emmanuel Macron avec 40 ans de retard. On a vu que ça ne marchait pas ailleurs, mais ce n'est pas grave.
À quoi bon chercher, faire des comparaisons ? J'ai un cœur qui sait quand il a raison.
Un cœur qui bat, ça ne vous rappelle rien ? Ah, là, sans doute. Faire battre le cœur de la France, le slogan de la campagne présidentielle de Benoît Hamon. Quatre hommes aujourd'hui tentent de ranimer celui du PS. Pas d'optimisme démesuré, mais quelques fulgurances lors du débat. Celle-ci est signée Emmanuel Morel.
C'est un idéologue, Emmanuel Macron.
Il n'a jamais été de gauche pour vous, Emmanuel Macron, à vous entendre.
Je pense qu'il n'a jamais été de gauche, ou alors peut-être quand il était lycéen, j'en sais rien, et qu'il faisait du théâtre et que ça l'ouvrait aux autres. Mais je pense que ça fait longtemps qu'il n'est pas de gauche. On aurait peut-être dû s'en douter, parce que la vérité, on est entre nous, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est aussi notre créature. Nous lui avons fait la courte échelle.
On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté.
Force était.
Et j'ai bourré.
Merci Laurence Perron, l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste Jean-Christophe Cambadélis, c'est l'invité de Questions Politiques.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Avant votre portrait, juste pour vous rafraîchir la mémoire, c'était il y a un an et ça paraît tellement loin. Il y a un an, Jean-Christophe Cambadélis, nous étions quelques jours après le rassemblement du Trocadéro. Alain Juppé venait de renoncer. Et quand on regarde les sondages de l'époque, il y a pile un an, pour la première fois, François Fillon n'est plus qualifié pour le second tour de la présidentielle. C'est la première fois, ça ne bougera plus. Et dans les mêmes sondages, c'est le moment où Benoît Hamon dévisse définitivement, siphonné par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et quand on regarde vos vidéos, qui sont toujours sur le site du Parti Socialiste, vos vidéos de l'époque, on vous voit face caméra appeler Benoît Hamon, le visage blême, livide. Vous n'y croyez pas ? Est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit à ce moment-là ?
Bah oui, je ramais. je voyais bien comment la situation était en train de tourner. C'est-à-dire que dans le même moment... Emmanuel Macron avait son accord avec François Bayrou et nous courions derrière et Mélenchon et les écologistes. Et bon, on voyait bien que la campagne, dans les meetings, il y avait du monde, mais elle ne prenait pas.
Mais votre état d'esprit, ce que vous ressentiez, c'était de la
moi,
déception.
Je n'arrêtais pas. Non. Je n'arrêtais pas de dire à Benoît Hamon, mais fais le tour de France avec nos grands élus, montre que tu es impliqué sur le terrain. Voilà, t'es pas obligé, alors que tu es candidat socialiste, de faire campagne sans les socialistes. Bon, à un moment donné, il faut savoir aussi ce que l'on veut. Or, il faisait une campagne contre les socialistes. C'était difficile de pouvoir le soutenir à ce moment-là. Donc, bah voilà. Après, j'essayais de faire le job pour que et nos électeurs lèvent un cil.
Oui, ils ne l'ont pas fait. 2 200 000 voix sur plus de 47 millions d'électeurs. C'était le score de Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle. Votre portrait, Jean-Christophe Cambadélis, il est signé Karine Bécard.
Bonjour Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour.
Jean-Christophe Cambadélis, vous avez commencé petit militant trotskiste, plus précisément même un trotskiste lambertiste, et vous avez fini votre carrière politique premier secrétaire du Parti Socialiste. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est a priori ce que l'on pourrait appeler une vraie réussite. Vous êtes allé frapper à la porte du PS à l'âge de 35 ans, et François Mitterrand, qui à l'époque était déjà président, ne vous accueille pas, comment dire, très chaleureusement. Mais peu importe, très vite, vous devenez député. Et surtout, très vite, vous montrez un talent particulier à la fois pour la diplomatie et la combinaison politique. Vous aimez manœuvrer, Jean-Christophe Cambadélis, et vous excellez quand il s'agit d'inventer les stratagèmes les plus compliqués. Ce qui vous a aidé à fabriquer la gauche plurielle. Parce que c'est vous qui l'avez imaginé, certains l'ont peut-être oublié, cette gauche sur laquelle s'est appuyée et avec laquelle a gouverné Lionel Jospin. Seulement, à y regarder de très près, elle est pour vous, Jean-Christophe Cambadélis, en 30 ans de carrière socialiste, votre seul vrai succès tactique, qui aurait dû d'ailleurs vous catapulter tout de suite à ce poste de premier secrétaire. Sauf que vous étiez déjà rattrapé par la justice, certes pas encore pour l'affaire de l'AMNEF, mais au total, à deux reprises, vous avez été condamné pour des emplois fictifs que vous avez occupés. Alors, après cette occasion manquée, il vous aura fallu attendre 17 ans. Vous, l'ancien Strauss-Kahnien, devenu bon gré mal gré un Hollandais bon teint, 17 ans pour accéder enfin au grand bureau de la rue de Solferino. Mais qu'en avez-vous fait après l'avoir tant attendu, tant espéré? Quel est votre bilan réellement? Jamais vous n'avez réussi à ressouder le parti, jamais vous n'avez contesté la moindre idée, même la déchéance de nationalité. Et jamais vous n'avez vraiment donné le sentiment d'accompagner totalement votre gouvernement. Or, depuis quelques mois, Jean-Christophe Cambadélis, vous réfléchissez beaucoup, tout haut, à la reconstruction du PS. Reconnaissez peut-être qu'il est un peu tard pour donner l'impression d'avoir les bonnes solutions.
Réaction Jean-Christophe Cambadélis.
Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Sur la déchéance de nationalité, je me suis opposé. Je me suis opposé aussi sur la première loi travail, celle que nous a resservie aujourd'hui Monsieur Macron. Mais il est vrai que sous la Ve République, et Castaner, le pauvre Christophe, est confronté à cela, c'est très difficile de faire exister un parti politique quand vous avez une majorité pléthorique et un président qui est en place. Nos institutions ne permettent pas, comme dans un régime parlementaire, aux partis politiques d'exister. Nous sommes là pour défendre, influer, peser. J'avais théorisé cette question, parce que j'ai le goût de la théorisation, qui en disant que le PS propose et l'exécutif dispose. C'est toute la marge de manœuvre que nous avons. Et quand il y a une opposition, j'en parle beaucoup dans mes livres, avec l'exécutif, ça se fait dans les déjeuners de la majorité, les dîners autour du président de la République, et ça ne se fait pas devant, en construisant un rapport de force. Parce que si vous faites ça, bah vous affaiblissez l'exécutif, c'est pas tout à fait votre rôle, ça c'est le rôle de l'opposition. Donc j'ai fini par me dire qu'il y avait un problème institutionnel. C'est nos institutions qui ne permettent pas le libre débat politique et qui ne permettent pas au parti de pouvoir, celui qui est au pouvoir, de peser sur les événements.
Mais vous avez un peu étouffé, vous avez évité ces débats d'idées qui auraient...
J'en ai remonté beaucoup, mais mon rôle c'était d'essayer de rassembler. Or, si on reprend l'histoire... les frondeurs ne sont jamais passés à l'acte de la motion de censure. Le parti n'a pas explosé, il s'est effondré après l'élection, mais il n'a pas explosé.
Oui,
bon, il a implosé, on va dire.
Drôle de manière de réécrire l'histoire.
Mais évidemment, mon rôle, c'était de l'amener à bon port pour l'élection présidentielle.
Bravo, Jean-Christophe.
Et au moment où je suis arrivé, notre candidat... Non seulement le président de la République ne s'est pas présenté, mais le premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, ne s'est pas présenté aux élections législatives. Alors après, il fallait défendre le bilan du gouvernement, alors que les deux principaux responsables ne le faisaient pas. Et dans le même temps, l'ancien premier ministre partait à la République En Marche, et notre candidat à l'élection présidentielle partait pour fonder sa propre formation politique.
Donc il n'y a pas d'erreur de votre part,
vous. Mais, si, je suis en train de vous expliquer que je n'ai pas réussi. Mais donc, j'essaie d'expliquer aussi les moments.
Sans remonter au déluge, est-ce que c'était l'idée du siècle, la primaire de relégitimation? Quand on parle avec François Hollande aujourd'hui, il considère que s'il avait eu un peu plus de temps devant lui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été coincé par l'échéance de la primaire en janvier, peut-être il aurait pu y avoir un miracle. C'est pas vous qui l'avez un peu cornérisé en disant que cette primaire devait avoir lieu?
Jean-Christophe Cambadélis.
De deux choses l'une. Soit le Parti Socialiste ne pesait pas, et donc c'est le président de la République, François Hollande, qui a décidé la primaire. Soit le Parti Socialiste, peut-être dans l'ombre, pesait. Et c'est lui qui a imposé au président de la République.
Mais c'est votre idée, la primaire.
Oui, c'était aussi la sienne. Je vous ferai remarquer que c'était aussi la sienne. D'ailleurs, au mois de juin, quand nous décidons cette primaire à l'unanimité au Conseil national, personne s'y est opposé, il me semble, en relisant la presse, que l'Élysée dit que c'est son idée. Que c'est eux qui ont eu cette idée géniale, puisqu'à l'époque, la presse trouvait que c'était extraordinairement intelligent
Vous, vous considérez après coup que c'était une bonne idée ou une...
Non, moi je pense que c'était nécessaire. Je continue à le penser.
Nécessaire.
Oui, c'était nécessaire parce que avec un président de la République qui est à 2%, vous ne le lancez pas comme ça dans la nature, d'autant que ça aurait conduit à une scission dans le Parti Socialiste. Vous me direz, bah, à la fin, c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé.
Bon, mais là, ce n'était pas la meilleure possibilité pour François Hollande de se lancer à un moment où certains seraient partis. Donc, cette primaire, il fallait la faire, mais il ne l'a pas fait. Il faut expliquer pourquoi. Aujourd'hui, François Hollande développe cette thèse, et il le développera sûrement dans son livre, à savoir que la primaire lui a été imposée et que sans elle, il l'aurait gagné. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est une carabistouille de François Hollande dont il a l'habitude.
Ah oui,
non.
Dont il a l'habitude.
Mais bien sûr. Vous avez lu les épreuves de ce livre?
Non, mais je
on
sais
en connaît
ce qu'il
dit aujourd'hui. Je sais. Faire confiance, oui. C'est ce qu'annonce le journal du dimanche.
Mais on est précisément dans le sujet.
Faire confiance.
C'est faire confiance.
Alors, revenez sur les carabistouilles de François Hollande, parce que c'est quand même intéressant.
C'est pas la primaire qui l'a empêché de se présenter. C'est la sortie de Macron. Oui. C'est la sortie de Macron.
Enfin, c'est son quinquennat aussi, peut-être juste.
Mais, non, mais ça, c'est autre chose. Parce que même dans ce quinquennat, il y avait, ce que je dis dans mon livre, des choses à plaider. Tout n'a pas été mauvais. Arrêtons. Il y avait, sur le plan économique, sur le plan des libertés,
sur le plan international. Mais c'est pas la sortie d'Emmanuel Macron, du
bien
gouvernement
sûr que si. Bien sûr que si. Vous me laissez 15 secondes, je vous explique pourquoi.
Donc François Hollande réécrit l'histoire, en clair.
Mais bien sûr qu'il réécrit l'histoire. Parce qu'il ne peut pas aujourd'hui dire que c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron, puisque c'est son successeur. Donc c'est Cambadélis qui doit porter la responsabilité. Mais c'est bien Emmanuel Macron qui, sortant du gouvernement, a fait chanter François Hollande.
Mais pourquoi il ne peut pas dire que c'est Emmanuel Macron
c'est très grave, finalement, là-dessus.
Non,
c'est à la fois grave et intéressant.
Mais
faire
il
chanter,
l'a fait chanter
c'est
en disant qu'il allait se présenter. Or, à partir du moment où Macron se présente, vous avez une partie de l'électorat socialiste, hollandais, qui quitte le Parti socialiste. Et la majorité qui pouvait se poser, se porter dans une primaire sur François Hollande est coupée en deux. Mmh. Donc les conditions politiques n'étaient plus réunies pour que François Hollande se présente. Et le livre est arrivé, je dirais, au bon moment pour dire qu'il
ne pouvait plus être... Et vous vous dites quoi, vous, à ce moment-là? Quand vous voyez ça, vous vous dites on est mort, on va dans le mur?
Mais je lui ai dit, comme beaucoup,
vous l'avez dit quoi,
comme Stéphane Le Foll, comme Claude Bartolone, comme Manuel Valls, il te défie, vire-le. Ouais. Ce n'est pas... on va se retrouver dans la même situation qu'avec Ségolène Royal.
Mais qui
ce
s'en
n'est pas Michel Rocard.
C'est le même problème. Il est en dehors du coup. Donc.
Et qu'est-ce qu'il répond quand vous dites vire-le?
Ce qu'il a toujours répondu, à savoir qu'il se portait garant de lui, qu'il se portait
et
garant de lui.
Vous croyez qu'il y aura une erreur d'appréciation énorme finalement?
Ça, après, vous lui poserez des questions. Il sort un livre, il va pouvoir vous répondre.
Vous croyez qu'il y croit? Vous croyez qu'il y croit quand
mais
il
parce
lui dit
que, parce que je crois que dans son analyse politique de l'époque, François Hollande estimait que Macron pouvait lui être utile, replaçons-nous à l'époque, pouvait lui être utile face à Juppé, pouvait le ringardiser, à condition que Macron vienne soutenir, comme Michel Rocard l'avait fait avec François Mitterrand. C'est peut-être ça l'erreur. Et Macron disait, je ne me présenterai pas si le président se présente. Mais au fur et à mesure qu'il se présentait, il engrangeait des voix. D'autant plus que Hollande était dans la difficulté. Et donc, à un moment donné, il était tellement haut, à 8, 10%, que Hollande ne pouvait plus être dans la primaire. Et donc, à ce moment-là, il a décidé de jeter l'éponge. Donc, il ne s'est pas présenté à la primaire, alors que tout était prêt. La réunion dont on a beaucoup parlé du 3 décembre à Paris où il manquait un certain nombre de militants parce que il y a deux jours auparavant, François Hollande n'avait pas décidé de se présenter. Et donc on devait lancer sa campagne électorale. Tout était prêt. On avait même commencé à discuter avec des communicants. Tout était prêt.
Vous
et au dernier moment, il a pas voulu y aller. Bon, pour des raisons politiques que je comprends.
Vous aviez un slogan pour
non.
François Hollande?
Non.
Mais si.
Non, non.
Mais si.
Non.
On voit votre œil.
Oui, vous avez un petit sourire, Panel, là.
Non, je n'avais pas de slogan.
Vous l'aviez pas vu venir. Vous
n'avez
pas. Vous racontez comment vous l'avez appris, qu'il allait abandonner, début
Hollande.
Décembre, François Hollande.
J'ai eu un doute, je vais vous dire, fin août. Pourquoi? Parce que, il était clair que, non seulement, Emmanuel Macron allait partir. On a une discussion avec le président de la République dans notre dîner du mardi soir, où je vous rassure, il y avait très peu de femmes, puisqu'il n'y en avait
Merci.
Pas. Et donc, dans ce dîner, on lui pose la question. On lui dit, François, parce qu'on le tutoyait, tu as vu Macron, vous êtes mis d'accord? Et il dit, non, je ne l'ai pas vu de l'été. Et je me suis posé cette question. Président de la République, candidat à l'élection présidentielle, qui ne rencontre pas son ministre de l'économie qui a décidé de se présenter coûte que coûte. Il ne l'a pas fait au mois de juillet parce qu'il y a l'attentat de Nice.
Mais il y a déjà le meeting de la mutualité qui dit
meeting de la
chose.
Mutualité. Mmh. Donc je me suis dit à ce moment-là, soit ils ont un accord, mais pas bah, impossible.
Secret.
Un accord secret.
Dont François Hollande ne vous parle pas.
Oui, bah, oui, ça, des choses, c'est des choses qui arrivent. soit ils n'ont pas d'accord et on est en train de se reconfronter à ce que François Hollande a déjà vécu. C'est un rejeu. C'est Ségolène Royal
avec
qui finit par s'imposer, imposer sa candidature. C'est, pour moi, à tout point de vue, et théorique et politique et tactique, Macron n'est pas Michel Rocard. Donc je ne le voyais pas loyal avec François Hollande à ce moment-là. Donc je me demandais ce qui se passait. Et puis après, vous savez comment c'est, on a vu
non,
arriver...
Non, là on découvre des choses assez sidérantes.
Ouais,
assez sidérantes.
Et après on a vu arriver Fillon. Ouais. Mais à ce moment-là, on s'est dit à nouveau, parce que quand c'était Juppé, c'était injouable. Mmh. On s'est dit c'est jouable. Parce que Fillon se déporte totalement droit.
Oui,
et là, j'ai revu,
espace.
J'ai vu à nouveau l'œil du président.
Oui, mais briller.
Et il nous disait, mais Fillon est battable, politiquement.
Il
est battable. Alors à ce moment-là, hop, c'est à recommencer l'idée, mais qu'est-ce qu'on fait de cette primaire? Mais c'était trop tard. Macron était parti. L'électorat hollandais, on va le dire, de la gauche de gouvernement, était coupé en deux. À tel point que j'ai dit à Manuel Valls de ne pas y aller. Parce que les conditions après le départ de François Hollande n'étaient pas réunies. C'était clair qu'il allait se faire battre et que c'était un référendum contre la politique gouvernementale. Si François Hollande avait été candidat, c'était qui pouvait battre Marine Le Pen. Et donc là, les choses auraient changé. Ce que ne pouvait pas faire Benoît Hamon. Bon, bref. J'explique tout ça dans un livre formidable.
Oui.
Chronique d'une débâcle, où mais on apprend d'ailleurs juste d'un mot qu'Emmanuel Macron n'est pas Michel Rocard, mais je rappelle qu'il possédait le déhanché de Michael Jackson et le regard de Margaret Thatcher. C'est comme
non,
ça que vous le décriviez.
Non, le déhanché de Michael Jackson, je ne suis pas du tout d'accord.
Ah, faut voir.
Vous n'avez pas assisté au même.
Virginie Malingre, puis Karine Bécard.
Vous avez dit quand vous avez parlé de quand vous étiez premier secrétaire avec le gouvernement, donc que Hollande était président, qu'il y avait un problème d'institution. Emmanuel Macron propose, enfin milite pour une réforme des institutions. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Jean-Christophe Combat,
je pense qu'il fait une erreur magistrale, car il pense que pour régler les problèmes de la France, qui sont nombreux et auxquels il s'attaque évidemment, il faut une centralisation. Au fond. Il dit « j'ai été élu une fois pour toutes ». Et donc, cette élection présidentielle vaut pour mes 5 ans. Et il veut centraliser le pouvoir, continuer à abaisser le Parlement qui n'a déjà pas beaucoup de
pouvoir. Mais c'est la légitimité du suffrage universel. Il a été élu par le peuple pour 5 ans.
Oui, mais nos institutions, c'est tout à la fois le président de la République et l'Assemblée. Sinon, on la supprime. Donc il y a un débat à avoir à l'Assemblée, et le Sénat aussi, qu'il ne faut pas oublier.
Sûr.
Donc la première erreur, c'est l'hypercentralisation. Du pouvoir, bien sûr. La deuxième erreur, c'est que je crois que l'avenir, je l'explique dans un nouveau livre...
C'est les régions.
C'est les régions. Et je pense que les Français devraient oser la démocratie, devraient oser la déconcentration, devraient oser l'expérimentation, devraient oser...
concrètement...
Il y a d'un mot sur le sujet pour avancer dans le débat.
Ouais,
mais
concrètement, ça serait quelle réforme des institutions qui serait souhaitable à vos yeux
C'est donner, par exemple, dans le domaine économique, plus de pouvoir en région. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Bercy qui peut décider à la place des régions. On doit réagir dans l'instant, puisqu'on est dans la modernité. On doit réagir dans l'instant et il faut attendre que Bercy se décide. Aujourd'hui, Bercy est un verrou et la centralisation est un verrou à la Renaissance française.
Mais on a l'impression que vous Virginie. Découvrez Girondins un peu sur le tard quand même. Parce que...
Il faut dire que
oui,
vous pouvez
mais non,
à l'Assemblée nationale parce que vous êtes passé de 295 députés à 31.
Très jacobin pendant longtemps.
Mais j'ai été totalement jacobin. Totalement jacobin. Mais dans une époque où je pensais que l'État était nécessaire, la centralisation de l'État était nécessaire pour relancer l'économie,
mais du
traiter
coup,
le problème.
On a le sentiment quand même que c'est une posture politique. Qu'effectivement, face à un président très jacobin, tout d'un coup, vous découvrez très décentralisateur et très girondin.
Ça l'est aussi.
Alors,
ça l'est aussi.
C'est de la posture politique.
C'est-à-dire, j'ai réfléchi sur ce que François Mitterrand avait fait avec le général de Gaulle. François Mitterrand était d'accord avec le général de Gaulle sur la décolonisation. Il était d'accord avec le général de Gaulle sur le développement économique. Mmh. Il était d'accord avec le général de Gaulle sur l'alliance avec l'Allemagne
et
l'Europe. Et il a attaqué le général de Gaulle sur la question de la démocratie.
Le coup d'État permanent.
Voilà. Eh bien, je crois que
tout en s'adaptant très bien aux institutions de la 5e par la suite.
Hein. Ouais, mais ça, c'est autre chose. C'est là, il était dans la conquête du pouvoir. Mais je pense que c'est à la fois nécessaire pour débloquer la France et libérer les énergies, mais c'est aussi nécessaire dans le combat politique si on veut le mener. Par rapport à Emmanuel Macron.
L'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, ancien premier ministre, futur premier ministre, qui sait, la vie politique est si étonnante, est l'invité de Questions politiques. Étiez-vous devant votre téléviseur mercredi dernier, comme vous en tout cas Nathalie Saint-Cricq?
Nous étions plus de 200, autour de 200, 230 000 devant le débat des socialistes. Première question.
Écoutez, LCI, mais c'est vrai que ça a été diffusé aussi sur des radios.
Également, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un se sortait du lot?
Moi, j'ai trouvé que chacun avait eu son moment, mais...
Oui, on n'avait pas de langue de bois jusqu'à 13h.
Mais ce n'est pas une langue de bois. Je crois que sur des sujets différents, chacun a eu son moment. Je vais vous dire tout de suite, je ne prendrai pas position pour ce congrès. Donc, ce n'est pas la peine de me touiller.
Ah bon, alors on va arrêter.
Mais pourquoi, finalement?
Parce que je pense que le premier secrétaire sortant...
Vous avez dit que vous étiez un spectateur désengagé.
Ben voilà, je suis désengagé, donc je ne m'engagerai pas.
Un spectateur ne pourrait pas dire ce qu'il pense.
Donc, je pense que ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de dire voilà qui doit me succéder. Voilà.
Enfin, libérez votre parole, Jean-Christophe Cambadélis.
Mais elle est très libérée, je crois que vous l'avez entendu tout à l'heure.
Franchement, non.
Elle est très libérée.
Alors, quel est votre rôle?
Mon rôle, c'est de faire des propositions.
Mais revenons au débat.
Toute petite question. À partir de combien, on va faire des choses concrètes, à partir de combien de votants, vous considérez que ce n'est pas un fiasco?
Écoutez, Rachid Temal, qui est une des révélations du Parti socialiste, du Parti socialiste aujourd'hui, parce que sans lui,
il faut qu'on précise pour les
bien
auditeurs.
Bien sûr, bien sûr. Oui. Rachid Temal dit au-dessus de 30 000. Bon, ben, je vais dire au-dessus de 30 000.
De 30 000?
Oui, 30 000 votants. On avait 55 000 au dernier congrès. On a perdu des gens, ça vous a pas échappé.
Et finalement, en élargissant les possibilités des gens qui ont des cartes depuis quand? C'est en fait depuis 2015?
Oui, il y a dans les listings du Parti socialiste, il y a aux alentours de 100 000, 110 000 adhérents au Parti socialiste. À jour de cotisation, il y a aux alentours de 80 000, si j'ai bien compris. Peut-être que je me trompe, parce que j'ai pas suivi très précisément ce débat. 50%, c'est ce qu'il y avait dans mon congrès, c'est-à-dire celui de Poitiers. 50%, c'est 40 000. Bon, ben voilà, entre 30 et 40 000.
Karine Becker.
Alors aujourd'hui, ce que vous souhaitez, ce que vous essayez de faire avec les différents livres que vous publiez, c'est de reconstruire, en tout cas de réfléchir à la reconstruction du PS. Qu'est-ce qui reste pour le reconstruire? Regardons déjà ce qui reste. Qu'est-ce qui reste du PS? Qu'est-ce qui tient encore debout? Sur quoi vous pouvez commencer à fonder cette reconstruction?
Beaucoup de choses. D'abord,
beaucoup de gens.
Mais c'est pas un problème de gens parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens
c'est
dans les partis politiques.
C'est aussi un problème d'électeurs et de gens.
C'est un problème d'électeurs. Donc comment reconquérir les électeurs? Balayons le fait que le Parti socialiste a disparu. Il n'a pas disparu, c'est le premier groupe parlementaire de gauche, si vous êtes au Sénat ou à l'Assemblée nationale.
Oui, enfin, il ne s'appelle même plus socialiste, le groupe socialiste à l'Assemblée, ce qui est assez sidérant, c'est la première fois depuis combien de temps?
Mais
ça s'appelle Nouvelle Gauche.
Ça a été souvent le cas, vous savez. C'est pas tout à fait nouveau. Donc, il y a des socialistes à l'Assemblée et au Sénat, et au Sénat, c'est le deuxième groupe, première chose. Deuxièmement, en termes d'implantation de maires, de conseillers départementaux, de conseillers régionaux, de présidents de région... C'est quasiment l'équivalent des Républicains. Donc, pour commencer, c'est une bonne base. Ce n'est pas un groupuscule qui va essayer de surgir de nulle part. D'ailleurs, Macron a réussi en faisant ça. D'où nous avons une implantation. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la structure du Parti socialiste, elle est en place. Il y a même les moyens financiers avec
Vraiment,
la vente.
Vous n'avez même plus de siège?
Mais on a 40 maintenant, 5 millions et quelques, je crois. Quel parti? Regardez Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est dans la dette. Les Républicains, ils sont dans la dette.
Quel parti à part le... Et
en plus, on a fait un plan social. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que la structure est là, mais l'émission, c'est-à-dire la capacité à aller chercher des électeurs, n'est pas là. Alors, il va y avoir un nouveau premier secrétaire, c'est déjà une première chose. Après, il va falloir... construire un projet, quel type de projet pour la société française, pas simplement pour une réponse au cas par cas par rapport à la politique gouvernementale, et puis une stratégie. Quelle est la stratégie du Parti socialiste?
La stratégie, c'est des alliances. Avec qui vous travaillez? Enfin, pas vous spécifiquement, mais comme
secrétaire.
Alors, est-ce qu'il est encore pensable de tendre la main, comme l'a laissé entendre Emmanuel Morel, à Jean-Luc Mélenchon, vu ses récentes déclarations, son caractère hégémonique, son attitude vis-à-vis des médias, enfin, j'en passe et des meilleurs.
Et qui ne veut pas.
Et qui en plus veut pas de vous. Et qui veut de personne, de toute façon, qui veut pas de Benoît Hamon, qui veut de personne.
Si je prends votre raisonnement, Il est illusoire de proposer l'alliance à Jean-Luc Mélenchon comme il est illusoire de proposer l'alliance à Emmanuel Macron.
Et donc,
les deux ont la même
attitude. Bon, c'est le nini.
Donc, mais c'est pas le nini. Moi, je dis, il faut une stratégie qui nous permette de nous adresser aux électeurs de ces deux personnalités. Parce que une partie d'entre eux nous ont quittés.
Et donc on fait comment ?
Eh bien, c'est en faisant un projet novateur, en proposant une nouvelle
synthèse absolument invraisemblable et magique, parce que pour s'adresser à la fois aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et à ceux d'Emmanuel Macron, comment est-ce que vous faites ?
On est un peu dans le chemin.
Un nouveau chemin.
Un nouveau chemin, c'est-à-dire
c'est
qu'il ne faut
livre.
Pas...
Un nouveau chemin aux étoiles.
Il fait, bon, ben oui, ça peut nous conduire aux étoiles. Mais il ne faut pas se déterminer par rapport à ce que dit Emmanuel Macron, qui fait une politique aujourd'hui de centre-droit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire là-bas ? Ni avec Jean-Luc Mélenchon, qui fait dans le populisme et qui vient de gifler publiquement Benoît Hamon, qui lui avait proposé l'unité sur les questions européennes, alors que le même Benoît Hamon avait dit que c'était ce qu'il distinguait de Jean-Luc Mélenchon, qu'on prenne qui pourra. Bon, mais... on voit bien que ces deux-là sont dans une situation d'hégémonique dans leur au niveau où ils sont, et ils ne veulent absolument pas de discuter avec les socialistes et avec personne d'autre, d'un certain point de vue. Donc, il y a quand même un espace. L'électorat social-démocrate, il existe toujours. L'électorat socialiste, il existe toujours.
Ah oui.
Et mais moi, il ressemble à quoi ?
Je vais vous répondre. J'inverse le processus. C'est que Macron ne sera jamais réélu s'il ne prend pas en compte le centre-gauche alors qu'il est sur le centre-droit.
Mais répondez à quelqu'un.
Jean-Luc Mélenchon ne pourra jamais gagner s'il n'est pas capable de construire une alliance. Donc, d'un certain point de vue, cet électorat-là, je ne parle pas du Parti Socialiste, je parle de cet électorat-là, c'est la clé de l'avenir.
Non mais quel est l'électorat quand même aujourd'hui du Parti Socialiste ? C'est-à-dire, c'est quoi son profil ? Vous allez le chercher où ?
C'est l'électorat, il y a d'abord les 8% des élections législatives. Je fais quand même remarquer que nous sommes repassés de 6 à 8%.
Mais écoutez, non, mais ok.
Nous sommes dans une je ne dirais pas que c'est la remontada, mais nous sommes dans une phase de reconquête.
Merci de ne pas employer le mot parce qu'on en est quand même assez.
Et oui, ça permet, on ne gagne pas toujours. Hein,
non.
Nous sommes à 8%, mais on a oublié, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon, lui, est descendu.
Oui. Non, mais peut-être, mais vous vous adressez
et
à qui?
Et que nous avons plus de parlementaires qu'il n'en a.
Non, mais
alors
c'est ça,
qu'il
quelle doctrine
faisait trois fois plus aux élections présidentielles. Donc, cela veut dire qu'une partie de notre électorat nous regarde. Ils sont passés chez les autres, mais ils nous regardent. Qu'est-ce que vous faites, les socialistes? Vous passez votre temps à discuter sur qui est-ce qui avait raison entre les frondeurs et les amis de
Hollande. Non, mais qui sont les socialistes? Répondez à Karine Becker.
Est-ce que les ouvriers, à nouveau, vous allez leur parler?
Pour moi, l'électorat, c'est celui qui a voté au premier tour de l'élection présidentielle pour François Hollande. Une partie a été...
Oula.
Pour François Hollande, elle est la présidentielle.
Oui.
Bon, ces gens-là, ils ne sont pas morts.
En 2012.
Ils sont toujours vivants. Donc, il y a une partie...
Mais à l'époque, on pensait que les gauches étaient un peu conciliables. Aujourd'hui... On a du mal à penser ça.
Non, mais je pense que ce qu'a dit lors du débat Olivier Faure est fort juste, si je puis dire, c'est que ce sont les élites des partis ou la personnalité qu'ils représentent qui sont irréconciliables. Mais les électeurs, vous verrez bien que c'est pas si simple que cela. Ils sont réconciliés dans des combats politiques. Ils seront réconciliés dans les élections, obligatoirement.
Sinon, c'est simple.
Autant dire que Macron est là pour 10 ans.
Alors, Nathalie Saint-Cricq. Justement, pour votre nouveau chemin, qu'il soit dans les étoiles ou pas, est-ce qu'il faut un nouveau chef charismatique ? Ou en clair, on est d'abord dans l'idée de reconstruire un programme, un corpus au Parti Socialiste, en se disant la présidentielle, on s'en fiche finalement, c'est pas le sujet. Ou est-ce qu'il y a besoin d'une forte incarnation du Parti Socialiste face aux incarnations assez fortes qu'on peut voir ? Parce que Macron, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une forte incarnation. Mélenchon, Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut se contenter d'avoir quelqu'un qui travaille ou qui réfléchit, qui fait un programme, sans qu'il y ait une sorte de leader qui sorte du Parti Socialiste, comme il y en a toujours eu ?
C'est un sujet, c'est le sujet qui est posé au Parti Socialiste dans sa décision pour les élections à venir. Ce que je me dis... C'est que quand François Hollande est devenu premier secrétaire du Parti Socialiste, on ne pouvait pas dire que c'était le leader maximo.
C'est ce que les uns et les autres
disaient. Et ça n'a pas empêché d'être président de la République. Et d'être un bon président de la République, moi je le maintiens. Bon, mais...
Vous voyez l'un des quatre candidats à la tête du PS, être premier président
faire,
de la République.
J'allais faire un mais. Nous ne sommes pas dans la même situation.
Mais en même temps.
Voilà. Non, mais tout simplement. Nous ne sommes pas dans la même situation. À l'époque, on était dans le bipartisme. Et aujourd'hui, on est dans le multipartisme. Et moi, ma thèse, c'est que ce n'est pas le leader qui, à cette étape, va faire la différence, c'est l'offre. Si vous n'avez pas d'offre, c'est-à-dire si les socialistes sont utiles à rien, c'est-à-dire ni utiles à l'opposition, ni utiles à la proposition, je crains que dans les prochaines élections, ils se fassent bousculer. Peut-être pas aux élections municipales, parce que là, ils sont
utiles.
Alors,
aux européennes, on met qui en tête ? Vous souhaitiez Moscou, il n'a pas l'air d'avoir envie.
Oui, bah, je pensais que Moscou était une très bonne candidature, mais il
pour
dit
que... Pour les non-initiés, Pierre Moscovici aujourd'hui.
Moscou, mais c'est parce que nous, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Aux affaires économiques.
Pierre Moscovici, bah, d'abord parce qu'il n'y a pas plus pro-européen que lui, ensuite parce qu'il a une compétence indéniable, et enfin parce que il est pas mal placé pour être le candidat, pour être le candidat de tous les sociaux-démocrates européen.
Alors c'est mort ou pas,
bon,
lui ?
Je n'en sais rien. Il dit qu'il veut pas le faire. Je le comprends parce que il a un travail à faire à la Commission.
Et les sociaux-démocrates se portent pas très bien en Europe quand même.
Oui, mais vous verrez que tout ça, c'est pas si simple que ça, parce que tout le monde se porte mal en Europe. Les partis de gouvernement se portent tous très mal.
Mais vous essayez de le convaincre, Pierre Moscovici, d'être la tête de liste du PS aux prochaines élections européennes?
Ça sera au futur premier secrétaire d'essayer.
Oui, mais vous le connaissez bien, est-ce que vous le faites?
Oui, je le connais bien, mais je suis pas sûr qu'il m'écoute.
Donc vous le faites, mais vous n'êtes pas sûr qu'il vous écoute.
Il y a qui d'autre autrement comme possibilité pour un peu, parce que c'est important l'Europe quand même.
C'est très très important. Je pense que le pari stratégique de Emmanuel Macron, qui était de casser le PSE et de PPE, vient de s'effondrer avec le résultat des élections italiennes. Donc il est dans une impasse stratégique et tout ce qu'il a proposé va se trouver dans s'enliser dans les sables mouvants de l'Europe. Et donc à ce niveau-là, la divergence que nous avons avec Emmanuel Macron, c'est que lui veut faire l'Europe par l'intergouvernemental et nous voulons le faire par les peuples, par donc
alors,
le Parlement.
Qui pour porter cette idée-là ?
J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai pas d'idée. Je vais évoquer cette histoire de
Pierre Moscovici. Moscou, bon, il est pas, comme vous l'appelez.
Il n'est pas disponible, visiblement, à cette étape.
Virginie Malingre, puis Karine Bécart.
En Allemagne, donc, on a un SPD qui se porte pas bien. En Italie, on a un parti démocrate qui se porte encore plus mal. Vous avez dit tout à l'heure, ça n'est pas qu'un problème de la social-démocratie européenne, c'est peut-être un problème de parti de gouvernement. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus ?
Oui, je pense que tous les partis progressistes au monde sont en crise. Regardez le Parti démocrate, divisé toujours sur la même fracture. Il y a ceux qui veulent accompagner la mondialisation et ceux qui veulent y résister. Des fois, ça crée des explosions, des fois, ça conduit à la création de nouveaux partis, mais vous regardez bien.
Mais alors, Remarque, c'est un peu un contre-exemple, parce que pour le coup, il se situe du côté de la mondialisation, c'est quand même, en termes d'idées, c'est quand même un parti ou un mouvement, appelez-le comme vous voulez, En Marche, chez nous, qui est quand même très dominant dans une culture de gouvernement, on n'est pas sur des marges. Donc...
Mais je parlais des partis sociodémocrates et des partis progressistes. Pour moi, En Marche n'est pas un parti progressiste. C'est un parti de centre-droit, maintenant. Mmh. Qui a commencé, d'ailleurs, en disant qu'il allait être progressiste, qu'il allait inventer un nouveau progressisme. Il invente le centrisme, il n'invente pas le nouveau progressisme. Il invente un nouveau centre-droit, qui n'avait jamais accédé de cette manière-là aux responsabilités. Il donne des couleurs à Juppé, mais il n'est pas le nouveau parti socialiste. Bon, il aurait pu l'être, il n'a pas voulu. Donc, mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous regardez tous les partis sociaux-démocrates et progressistes du monde, ils sont partagés. Et à partir du moment où ils sont partagés entre les tenants de l'accompagnement et les tenants de la résistance, ils ne peuvent plus accéder aux responsabilités.
Mais vous, du coup, vous êtes dans les tenants de la résistance. Vous êtes...
Donc, je suis dans les tenants d'une nouvelle offre. Je ne l'ai pas encore.
En vous annonçant eurocritique, vous n'êtes pas dans une nouvelle offre.
Mais si, une nouvelle offre européenne, des propositions, j'en ai fait une qui pour l'instant n'a pas été retenue. Je dis que la question essentielle pour la construction européenne, c'est l'harmonisation fiscale. Et je suis pour Et je suis pour un serpent fiscal comme il y a eu le serpent monétaire, ce qui permet de faire avancer concrètement et converger complètement. On a fait converger les monnaies, c'était quand même pas mal. Et on peut faire converger les politiques fiscales de cette manière-là.
Juste une question quand même, quand on s'affiche comme ça, eurocritique, comme vous le faites à même pas 18 mois d'une élection européenne, vous ressemblez beaucoup finalement à la fois à la droite de Laurent Wauquiez, qui s'annonce aussi eurocritique, euro-réaliste, mais c'est de l'eurocritique, et de Jean-Luc Mélenchon finalement. Donc en quoi vous distinguez, comment les électeurs vont réussir à percevoir la gauche ?
Eh bien, d'abord parce que sur ce projet, qui est à la fois critique et très européen, il y a les sociaux-démocrates européens, le rassemblement des sociaux-démocrates européens. Donc nous avons la possibilité d'avoir une majorité au Parlement. Alors que Emmanuel Macron n'a pas cette possibilité, parce qu'il est tout seul. Et aujourd'hui, toutes les voies sont fermées. On ne peut pas penser que le PPE, c'est-à-dire les conservateurs de Madame Merkel droite, en Europe, vont se couper en deux pour soutenir Emmanuel Macron. Maintenant, c'est terminé. Il pensait que Monsieur Renzi pourrait venir l'aider, Monsieur Renzi, à démissionner. Donc, il va se retrouver avec une liste et il va faire du pour ou contre Macron. Il va pas faire pour ou contre mon projet européen.
L'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, est notre invité ce dimanche.
France Inter. Question politique.
Question de Nathalie Saint-Cricq.
Jean-Christophe Cambadélis a émaillé tout le débat des socialistes l'autre soir, savoir s'il fallait être dans une opposition systématique ou dans une opposition constructive, c'est-à-dire voter pour parfois, même si c'est des projets de loi ou qui viennent du gouvernement. Quel est votre conseil et votre préconisation? Quand on voit par exemple le projet pénitentiaire d'Emmanuel Macron qui a été dévoilé cette semaine, qui ressemble parfois un peu ce que Christiane Taubira voulait faire, quand on voit ce que fait M. Blanquer, le dédoublement des classes de CP, est-ce que vous dites, quelquefois, il faut dire c'est bien et soutenir?
C'est évident qu'il faut dire c'est bien et soutenir quand c'est bien et soutenable.
Là, c'est pas évident pour tout le monde.
Mais le problème du Parti Socialiste, c'est qu'il est dans l'opposition ou le soutien cas par cas. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est le sens, le projet. Quel type de société? Qu'est-ce que vous voulez faire de la France? Si vous ne dites pas ce que vous voulez faire de la France, vos réponses sont un coup dans un sens, un coup dans l'autre.
Ils sont supposés le faire. On est en plein dedans. Il faut juste expliquer.
On est en plein dans un congrès. Donc ils vont le faire.
Et à ceux qui nous regardent, comment on élit le premier secrétaire du Parti Socialiste? Parce que c'est vrai que ça défie l'entendement. En l'occurrence, donc les quatre candidats déposent des motions.
Oui.
Une motion, pour le dire très simplement, c'est une sorte de projet. De projets où on définit sa vision de l'avenir.
Et une méthodologie pour construire le Parti Socialiste.
Oui, donc on n'est pas encore très très loin de cette idée-là. Donc ensuite, il y a les quatre motions, qu'est-ce qui se passe après? Adhérents votent.
Oui. Il y a les adhérents votent, il y a une motion qui arrive en tête, il y a une deuxième motion, il y a un deuxième tour entre les deux principales motions, s'il y a un deuxième tour.
Exactement, et donc là on ne vote plus entre motions. Entre les deux motions, on vote pour le candidat.
On vote pour les motions, puis après il y a un congrès, puis après on vote pour le poste du premier secrétaire.
Et ensuite, il est annoncé, ce nouveau secrétaire, encore à une date ultérieure.
Mais oui, parce que, vous savez...
C'est incompréhensible et ça fait vraiment violent.
Non, mais très sincèrement, j'ai essayé de comprendre,
je n'y comprends absolument
rien. Vous comprenez
rien.
Parfaitement, il y a un candidat sur un projet, ce qui n'est pas le cas ni dans La République En Marche, ni encore moins chez Jean-Luc Mélenchon, et parlons pas de Marine Le Pen qui était toute seule.
C'est des désignations,
candidat.
Là, c'est différent. Hein,
bon, voilà, donc, on est un parti
démocratique. Enfin, vous n'avez pas donné, justement, un exemple de démocratie au cours des dernières élections des premiers secrétaires. Il y a eu quand même pas mal de fraudes, pas mal de magouilles dans un passé pas si lointain.
Je ne vous permets pas de dire ça.
Le congrès
de Poitiers était mon congrès où moi j'ai été élu.
Celui-là était
personne. Personne. Ni les frondeurs qui, à l'époque, étaient quand même assez chauds contre le Parti Socialiste, sa direction et sa majorité. Personne n'a mis en cause. Pas une personne n'a mis en cause
l'organisation. Donc là, il n'y aura pas de fraude.
Tournez la page, ne soyez pas dans les schémas
du vieux monde.
C'est le nouveau
là,
monde.
Là, c'est pratique.
Ils sont en train de décider d'une orientation, ce qui n'est pas le cas des autres partis. On a le droit de dire... aujourd'hui, la démocratie, c'est un homme qui décide à la place ou du peuple ou de son parti. C'est une position à tenir. Pour moi, c'est un peu poutinien. Mais on a le droit de défendre cette position. Oui, c'est un peu poutinien de dire que la démocratie ne doit pas avoir lieu d'être. Je dis quand on veut qu'un homme décide à la place de son parti et de son peuple. C'est un peu poutinien. Bon, donc je dis simplement qu'il vaut mieux que les militants... voir les Français s'expriment, que cela donne lieu à des débats qui ne sont pas des débats d'invectives. Regardons ce qui s'est passé il y a quelques jours, où il y a des problèmes d'orientation, où il y a des désaccords, où vous avez Emmanuel Morel qui est sur une orientation, Stéphane Le Foll qui est sur une orientation, Olivier Faure qui est sur une orientation, et Luc Carvonas qui est sur une orientation. Des fois, ils se recoupent, des fois, ils s'opposent.
Qui va gagner?
J'en sais rien, moi.
Mais si, vous avez une idée.
Mais non, je n'en sais rien.
Quel est le meilleur profil, quand même? Enfin, celui qui aligne les meilleures
qualités. Quelle a été la révélation du débat?
Jean-Christophe Cambadélis. La révélation dans le débat, vous savez tous, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a découvert, pas moi, vous avez découvert la bonhomie combative d'Emmanuel Morel. c'est pour ça que j'ai dit que chacun avait eu son moment. Stéphane Le Foll a été très pugnace.
Non, mais c'est pas la question. C'était la question de Virginie, mais c'était pas notre question.
Et Olivier Faure a montré un chemin pour les socialistes.
Qui va l'emporter, bon. Jean-Christophe Cambadélis?
Mais je n'en sais rien.
Mais si... vous avez une idée.
Mais vous êtes quand même extraordinaire. Vous voulez que je vous dise avant le vote ce que sera le vote. Et après, vous allez dire.
C'est dans la grande tradition socialiste.
Mais comment ça se fait? Comment vous savez comment ça va se passer?
On dira, c'est un excellent analyste. Il connaît bien son parti.
Non, la question, c'est quelle qualité il faut avoir pour être un bon premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous l'avez été, vous vous êtes rendu compte de la charge que ça représentait. Voilà, les bonnes qualités pour affronter tout ça.
Il faut être très déterminé, donc mais très bienveillant, ouvert, diplomate, avoir le sens de l'écoute. Oui, mais il faut être très déterminé sur ce que vous voulez faire du Parti Socialiste. Moi, quand j'ai voulu passer du socialisme classique à la social-écologie, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ça a été... épouvantable.
Et par ailleurs, il faut changer le nom du parti. Vous êtes toujours sur cette idée-là ou pas?
Moi, j'avais dit que dans Parti Socialiste, le problème, bien avant que on évoque cette situation, que le problème n'était pas socialiste mais parti, c'est-à-dire que la forme partidaire aujourd'hui est interpellée.
D'accord avec Macron.
Est interpellée. Mais pour autant, je ne suis pas pour une formation qui soit autour d'une personnalité et que cette personnalité décide en lieu et place des adhérents. À ce moment-là, il n'y a pas la peine d'avoir d'adhérents.
Il y en a plus, de toute façon. Enfin, très peu.
Non, exagère.
Moins de 100. Juste une toute petite question. Dans cette période de légère panne de leadership, on voit qu'Anne Hidalgo est assez contestée, mais comme là, est-ce que ça a été un espoir à un moment donné, y compris pour 2022. Est-ce que vous pensez que de Anne Hidalgo peut venir l'espoir?
Je poserai la question. Qui a peur de Anne Hidalgo? Pourquoi aujourd'hui cette violence contre Anne Hidalgo?
Non, mais je vous demande juste si elle représente.
Mais aujourd'hui, elle gère la plus grande ville de France. Elle est face à des difficultés qui ne sont pas inhérentes à Paris, mais qui sont la concentration.
On avait dit pas de langue de bois, répondez.
Mais c'est pas la langue de bois. Elle est vraisemblablement un espoir pour les socialistes, mais au niveau où elle agit aujourd'hui, à savoir la ville de Paris.
Mais elle avait espéré plus, vous savez bien ça.
Enfin, moi, elle ne l'avait pas dit, en tous les cas.
Enfin, tout le monde le savait.
Et j'étais premier secrétaire du Parti Socialiste. Elle m'a toujours dit que ce qui l'intéressait avant tout, c'était Paris. D'ailleurs, elle a créé une association qui s'appelle Paris en commun. Je l'ai soutenue et je la soutiens toujours.
Et vous l'aviez cru quand elle vous a dit qu'il n'y avait que Paris.
Mais bien sûr, moi j'ai l'habitude d'écouter les gens et de prendre ce qu'ils me disent, même s'ils peuvent avoir des arrière-pensées, ce qu'ils me disent. Donc, elle l'a fait. Elle le fait bien. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est en capacité de démontrer qu'il y a deux manières de défendre la ville. La sienne et ceux qui sont dans le monde ancien, pour le coup.
L'émission se termine. Jean-Christophe Cambadélis, pour qui allez-vous voter?
Ah, ça, vous ne le saurez pas.
Non?
Non.
Vraiment?
Quel est celui qui pourrait restaurer le mieux et le plus vite le Parti Socialiste?
Celui qui sera élu.
Oui, n'importe lequel.
En combien de temps?
Des quatre. Bon, merci en tout cas Jean-Christophe Cambadélis d'avoir été notre invité. Bon dimanche. Merci à toutes les trois. Merci à Mathilde Clatt d'avoir préparé cette émission. Question politique se termine. Je vous retrouve après le journal pour le grand face-à-face de France Inter. Et donc à tout de suite.